voix nue. Ce soir encore, Annette Wieworka rencontre Talila. Tout de suite, notre langue d'intérieur.
J'ai longtemps pensé que le yiddish était une langue d'intérieur, comme des chaussons ou une robe de chambre. Un jour, j'ai découvert que le yiddish était une vraie langue, comme les autres. Des garçons à cheveux longs et des filles belles, libres, avaient écrit des poèmes inclassables, s'étaient aimés en yiddish. J'avais dû croiser, sans le savoir, quelques-uns de ces yiddish poeten, mais déguisés en tailleurs, maroquiniers, peintres en bâtiment, cordonniers. Il fallait bien vivre, témoin magnifique et solitaire d'une langue disparue avec ses locuteurs. Talila, c'est comme ça que vous présentez votre recueil de textes, votre livre, qui s'appelle « Ma langue d'intérieur ». Et pourtant, on a essayé de vous convaincre, à réitérer reprise, d'abandonner le yiddish pour chanter en français.
Eh oui, on m'a souvent, mais très 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 souvent demandé « Mais pourquoi tu chantes ?» ou pourquoi vous chantez en yiddish? Pourquoi ne chantez-vous pas en français? Ma mère elle-même m'a souvent posé cette question. Ma mère, dont j'aurais pu penser qu'au fond, ça lui faisait plaisir que je chante en yiddish. Eh bien non, même ma mère me posait cette question. Elle me disait, tu vas chanter triste encore en yiddish? Enfin, vous voyez, avec ce ton ça, très ironique qui la caractérisait. Oui, parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi on se lance dans une carrière de chanteur avec une langue que personne ne comprend, si ce n'est quelques-uns. Et même parmi les quelques-uns, ils la comprennent pas toujours très bien non plus, parce qu'ils ont une habitude du yiddish quotidien, du yiddish parlé à la maison. Ils comprennent pas bien le sens des poèmes, etc. Donc c'est une question. Pourquoi ? Et je me la suis posée aussi, bien sûr, cette question.
Vous avez quand même fait quelques incursions dans la chanson en français.
Oui, mais vous
même
voyez
un album.
Vous voyez que je ne vous ai pas répondu.
Voilà.
Je n'ai pas répondu à votre question. Pourquoi en yiddish?
En fait, on va y revenir.
Oui, non, bien sûr que j'ai fait des incursions. J'ai même enregistré un disque en français, entièrement en français. Un disque qui s'appelait « Le Casino de Vichy », où certes, il y avait deux adaptations en français de chansons yiddish, mais quand même, c'était... Et j'ai fait tout un spectacle qui s'appelait également... Ça, c'était en 1986, au De Jazet, tout un spectacle en français qui s'appelait « Le Casino de Vichy ». Et j'ai chanté en français et il ne s'est rien passé. Ni pour moi, d'ailleurs, ni pour le public, qui n'y trouvait pas son compte. Je n'exprimais pas, certainement, en tout cas pas à cette époque, ce que j'avais en moi. On m'avait écrit des chansons, certaines qui tiennent le coup, qui tiennent le choc.
Que vous continuez à chanter ou pas ?
Oui, il y en a eu justement au Casino de Vichy, mais ça c'est une adaptation sur une chanson yiddish. Grand-mère jouait tout l'été au casino de Vichy, avant la guerre, dans les années d'euphorie. Ce sont des paroles de Jean-Yves Lullet en français. J'aime bien la rechanter, cette chanson. Mais voilà, c'est une expérience qui n'a pas eu de suite et une expérience un peu ratée. Mais Chant du Monde m'avait permis de faire ce disque, et en particulier Philippe Gavardin, qui dirigeait Chant du Monde à l'époque et qui est mort depuis bien longtemps et... Combien je le regrette, car Philippe Gavardin aussi, ça a été une grande rencontre pour moi. Donc, expérience ratée. Mais quand même, je suis revenue aussi un peu au français dans le dernier CD que j'ai enregistré.
Alors, c'est aussi une rencontre, parce que finalement, votre vie de chanteuse, c'est aussi une vie où les rencontres ont beaucoup d'importance.
Oui, bien sûr.
Donc, ces deux chansons qui ont été écrites pour vous par Jean Rouault.
Alors, surtout, l'une qui s'appelle « Le temps des bonheurs » a été écrite par Jean Rouault pour moi. L'autre chanson que j'interprète, qui s'appelle « La vieille dame de la rue de Siam » et qui fait allusion à la Barbara du poème de Jacques Prévert, il l'avait déjà écrite, mais je me la suis appropriée. Et sur ces deux chansons, c'est Teddy Lasserie qui en a fait la musique. Mais Jean Rouault a été une très, très grande rencontre.
Racontez-nous un peu votre rencontre avec Jean Rouault.
C'est une belle rencontre. Je l'ai rencontré il y a longtemps maintenant. À un salon du livre pour enfants à Montreuil, où il était invité et où je me suis retrouvée aussi. Et je venais de lire ses premiers livres, dont évidemment le prix Goncourt, Les Chants d'honneur, mais aussi les livres qui ont suivi. Et j'étais fascinée par son écriture. Je trouvais que ses romans étaient extraordinaires. Donc je le vois à côté de moi et je me demande pendant un tout petit moment si je vais lui dire combien je l'admire. Et comme je suis une personne timide, qui s'exprime sur scène, mais dans la vie qui a beaucoup plus de mal, j'hésite longtemps. Mais bon, je prends mon courage et je vais lui dire bonjour, voilà, je viens de lire vos livres et je les trouve extraordinaires. Et il se met à pleurer. Mais à pleurer vraiment, c'est-à-dire pas une petite larme au coin de l'œil. Il pleure et il ne peut plus s'arrêter de pleurer. Et alors évidemment, quand quelqu'un pleure devant vous, vous avez envie de pleurer aussi. Alors nous pleurons tous les deux. Et nous nous embrassons, je lui explique qui je suis, ce que je fais, etc. Et il me donne son adresse, il habitait Montpellier à l'époque, je crois que je lui envoie une ou deux lettres. Et une en particulier, quand j'allais assez mal, dans ma vie personnelle. Et puis je ne le revois plus, et puis je n'ai plus de nouvelles, et puis je ne lui écris plus non plus, mais je continue à lire ses livres. Et je le retrouve en 2011 dans la maison de disques et d'édition Naïve. Autre rencontre aussi que la maison Naïve et Patrick Zelnick qui accepte de distribuer nos CD, mon Yiddish Blues et Le Temps des Bonheurs. Patrick Zelnick que j'aime beaucoup. Et là, je retrouve Jean Rouault qui dirige une collection de petits bouquins chez Naïve. Et alors là, on se retombe dans les bras, mais on ne pleure plus. Et c'est lui qui édite et qui dirige l'édition de mes textes, Notre langue d'intérieur, chez Naïve. Et il est devenu, évidemment, un ami que j'aime beaucoup et que j'admire.
Donc vous chantez deux de ses chansons. Et il y a aussi une parmi mes chansons préférées,
oui,
qui sert de générique de fin, pratiquement. Oui. À ce film que je ne peux pas regarder sans être ému par le film et par la chanson, qui est La Passante du Sans-Souci.
Et oui, j'ai la chance en 81 d'être contactée par Jacques Kirsner, le scénariste de ce film, et Jacques Ruffio, le réalisateur.
Le dernier film de Romy Schneider.
Le dernier film de Romy Schneider. Il me contacte, il me demande si je suis prête à interpréter une chanson de générique du film, effectivement, La Passante du Sans-Souci. Alors là aussi, c'est une rencontre extraordinaire, à la fois avec Jacques Ruffio, que j'ai revu et que j'aurais revu avant sa mort, quand il était dans une maison de retraite à Paris, à l'enterrement duquel je suis allée parce que je l'aimais beaucoup et je le respectais. Et là, je rencontre effectivement Georges Delerue, compositeur merveilleux de musique de film et compositeur tout court, et personne extrêmement attachante, généreuse, et qui fait partie de cette petite colonie de gens extrêmement bienveillants que j'ai rencontrés. Et Georges Delerue, très simple, que je rencontre dans son appartement non loin de la station de métro Villiers. Je me souviens toujours de cet appartement, de cette rencontre, de sa gentillesse, de sa simplicité. Il me propose la mélodie qu'il a composée sur des paroles de Jacques Kirsner. Et je travaille cette chanson et je ne me rends pas bien compte, en fait, de l'importance de ce que je vais faire. Je suis vraiment... je suis jeune, quoi. Voilà, je suis jeune. Je ne me rends pas compte des choses, de la chance que j'ai. Je vais au studio d'Avou, j'enregistre. C'est Ezra Bousquet-là qui fait l'arrangement de cette chanson à ce moment-là. On enregistre. Je refais une ou deux fois parce que, bon, là, je n'ai pas bien fait. Là, j'ai un peu détonné. Là. Enfin, bon. J'ai un tout petit peu le trac, mais pas tant que ça, en fait. Et puis ensuite, je vois le film, bien sûr. Je rencontre Michel Piccoli, je me souviens, à la première du film, qui est un des seuls à me parler. Il n'y a pas Romy Schneider, elle n'est pas là. Et il me parle extrêmement gentiment. Et ça aussi, c'est une rencontre formidable, dont il n'a certainement pas le souvenir, mais moi, qui me marquera. Et encore plus quand j'apprends qu'il est très, très ami de Jacques Rouffio et que lui aussi vient lui rendre visite, mais beaucoup plus que moi. Hein. Il vient lui rendre visite peut-être une fois par semaine où il lui téléphone à la maison de retraite. C'est des rencontres extraordinaires. Et La Passante du Sans-Souci, je continue à la chanter sur scène. Et je me rends compte que c'est une mélodie très simple hein, qu'a faite la Georges Delerue. Mais elle marque beaucoup les oreilles et les esprits. Et il y a une autre histoire à propos de Georges Delerue. Lorsque nous étions à la vieille grille, peut-être un an ou deux ans après la mort de Georges Delerue, qui est mort jeune, vient nous voir sa fille, que je ne connaissais pas, mais elle se présente à moi. Et là aussi, elle assiste au spectacle. Je ne chante pas La Passante du Sans-Souci, d'ailleurs, mais je ne sais même pas qu'elle est dans la salle. Donc elle se présente, elle me dit « Je suis Claire Delerue, je suis la fille de Georges ». Et ça m'émeut beaucoup. Et là aussi, quand même, j'ai tendance, comme Jean Roux, j'ai tendance à la larme. Et comme il est mort il n'y a pas si longtemps, nous nous embrassons et nous nous perdons de vue. Et je la retrouve il y a un an et demi grâce à Facebook. Je m'aperçois qu'elle m'a écrit, je lui réponds, on s'échange nos numéros de téléphone, elle vient me voir. Et là, c'est une rencontre extraordinaire. La fille de Georges est devenue... Elle est musicienne, elle est une grande musicienne, elle chante aussi très joliment. Et elle est professeure de chant. Et je lui dis... Est-ce que vous me donneriez, est-ce que tu me donnerais, puisque maintenant je la tutoie des cours de chant. Et je reprends l'étude du chant, le travail du chant et un travail quotidien que je fais depuis ma deuxième rencontre avec elle. Elle est mon professeur de chant, ma professeure de chant. Et c'est une professeure extraordinaire, très pédagogue, d'une gentillesse merveilleuse. Nous parlons de son père et j'apprends à chanter.
Décidément, vous venez d'évoquer la vieille grille, donc la rencontre avec Claire Delerue à la vieille grille, qui est aussi la rencontre avec Jean-François Zigel.
Oui.
Donc la vieille grille, ça a été un moment très particulier finalement dans votre vie. Vous faites un spectacle qui s'appelle Yiddish Cabaret, et c'est un spectacle qui pour vous est aussi une innovation.
Oui. C'est un spectacle donc qu'on fait à deux avec Ben Zimet. Lui, donc, il chante en yiddish et il raconte. C'est un conteur. Et moi, je me dis, je ne vais pas m'arrêter à chanter. J'ai besoin de choses comme ça pour avancer aussi. Moi aussi, je vais raconter. Mais je ne me sens pas du tout de raconter des histoires de chelm ou des histoires de rabbins miraculeux. Eh ben, qu'est-ce que je peux raconter de mieux? Ben, je raconte ma vie. C'est tout ce que je sais faire. Et quand je raconte ma vie, je raconte forcément la vie de ceux qui m'ont vu naître, de mes parents, des amis de mes parents, de ma famille, de tout cet univers yiddish. Et je le raconte en français. Donc, je chante des chansons en yiddish. Et entre les chansons, que je n'explique pas toujours parce que je trouve que ça fait un petit peu Collège de France. Enfin, ce serait très bien d'ailleurs si c'était Collège de France, mais je trouve qu'on perd un peu l'univers théâtral, enfin l'ambiance théâtrale quand on commence à dire une traduction, sauf pour certains poèmes. Et puis parfois aussi, il faut bien le dire, certaines chansons ne demandent pas à être traduites tellement elles sont un peu niaises. Enfin bon, on peut les détourner, mais... Donc je raconte, voilà. Et c'est là,
et
c'est
vous commencez par raconter Krasnik sur scène.
Bien sûr.
C'est-à-dire, je crois que votre premier texte, c'est le texte que vous avez intitulé Mes Dimanches.
Exactement.
Qu'est-ce que vous racontez dans Mes Dimanches?
Eh bien voilà, je raconte les dimanches. Je raconte les dimanches, quand je suis petite, que les amis de mes parents viennent chez mes parents, ou alors nous allons chez les amis. Et c'est là, comme dans une pièce de théâtre, car c'est très théâtral, que tout commence.
Il y a des personnages.
On campe les personnages. Et évidemment, je choisis ceux qui ont marqué mon enfance, ceux qui ont un nom rigolo, que je trouve rigolo.
Par exemple.
Par exemple, Euser. Mais moi, j'entends Oizen. Oizen, ce sont les pantalons en yiddish. Donc, moi, je crois très longtemps que Oizer, il s'appelle pantalon. Enfin, culotte, voilà. Je trouve ça drôle. Hein. On a l'humour qu'on peut hein, quand on est enfant. Donc, les noms rigolos, les aspects rigolos. Il y a des gens qui ont des têtes quand même très, très, très particulières. Les accents. Les accents,
alors là, les accents,
les accents, ça c'est une merveille. Et peut-être que c'est ce, à présent ce que je regrette le plus de ce monde-là. C'est pas tant le yiddish qu'il parlait que la manière dont il parlait français, qui est extraordinaire, merveilleuse. Et c'est vrai que quand on se voit avec d'autres copains du même monde, on parle parfois comme ça et on emploie des expressions. Des personnages aussi qui ne sont pas conformes, les types un peu dragueurs, un peu louches quand même, Monsieur Toivieux par exemple, qui a, enfin je le comprends pas très bien quand je suis petite, mais les parents disent qu'il a des copines. Alors, les copines, qu'est-ce que ça veut dire, des copines? Bon, bien sûr, ce sont des maîtresses. Et alors, elles ont une particularité, ces maîtresses, c'est qu'elles sont françaises. Mais alors, françaises, comme dirait l'autre, de souche. Et ce qui est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui vient de Krasnik, parce qu'on se marie beaucoup entre soi quand même, on se marie pas tellement avec les Françaises, ni les Français. Donc, c'est une particularité. Monsieur Beyrou, le coiffeur, qui parle avec une voix très, très forte et qui aime les femmes aussi. Parce qu'ils sont quand même, il y a des sacrés zigotos hein, dans les originaires de Krasnik et des environs.
Et d'ailleurs, pas oublier les environs.
Sans parler, évidemment, des dames que je trouve parfois ridicules parce qu'elles ont une manière de s'habiller particulière, de se maquiller particulière. Elle rit aussi, elle glousse beaucoup, elle pleure aussi beaucoup. Je tiens d'elle, hein, forcément. Elle pleure beaucoup en riant en même temps. Enfin, elles sont toutes un peu neurasthéniques. Et certaines ont un numéro tatoué sur le bras. Parce que, bon, les hommes, ils sont en chemise, ça se voit pas, sauf en été, ils peuvent aussi avoir des numéros sur les bras. Mais c'est plus frappant chez les femmes.
Et vous vous souvenez quand vous avez compris ce que signifiait ce numéro tatoué?
Je le savais. Vous l'avez toujours su? Oui, je l'ai toujours su je pense que je l'ai toujours su, car dans ces réunions du dimanche, il y avait aussi des personnages, pas simplement des personnages ridicules physiquement ou dans la façon dont ils parlaient. Il y avait en particulier une femme extraordinaire avec une voix extraordinaire qui parlait très fort et qui, sans aucune retenue, racontait des choses terribles car elle avait été déportée à Auschwitz et très jeune avec sa sœur. Et elle racontait. Mais elle racontait avec une force que je n'avais, parce que les autres dames étaient plus féminines, plus délicates, elles gloussaient, certes, mais elles n'avaient pas cette façon de parler et de dire les choses. Donc elle racontait le camp, et le camp des femmes. Donc j'ai toujours entendu. Il n'y avait pas de tabou. Et les pleurs avaient toujours un sens. C'était pas des pleurs pour rien. Donc ça aussi, je l'ai toujours su. Donc très petite, j'entendais ça. Et je savais à peu près ce que ça signifiait.
Ce désir de raconter, vous dites aussi qu'il est lié au décès de vos parents, au décès d'abord de votre père et ensuite de votre mère.
Oui, mon père est effectivement mort assez jeune. Il est mort en 86 et donc j'ai commencé à écrire effectivement après. Ma mère, c'est un peu plus récent. Oui, c'est leur mort à eux et la mort de leur monde, de tout ce qui les caractérisait. Et c'est aussi une façon d'écrire en français, de toucher directement des gens qui sont là pour vous écouter chanter, certes en yiddish, mais qui ne comprennent pas, parce que mon but, c'est quand même de, non pas de chanter devant des gens qui comprennent, mais de chanter devant le plus de gens possible, donc aussi devant ceux qui ne comprennent pas. Et j'ai besoin de raconter en français ce monde pour qu'ils y pénètrent dans ce monde, qu'ils le comprennent et que parfois leurs préjugés tombent et disparaissent grâce à ce que je raconte.
Alors peut-être aussi que c'est cette scène où vous racontez qui vous a permis de jouer au théâtre.
Mais oui, parce que un jeune metteur en scène vient à un spectacle et me propose, après le spectacle, me demande si j'accepterais de jouer un monologue, donc en français bien sûr, l'histoire d'une femme qui raconte sa jeunesse en Pologne et son départ après la guerre aussi, qu'elle vit très jeune en tant que juive polonaise en Pologne, et son départ en terre d'Israël et son inadaptation, son incapacité à vivre normalement en Israël. C'est un texte d'une femme qui s'appelle Blanca Metzner et dont le récit a été adapté par Dan Volman en Israël. Donc il me propose ce texte, il me le donne à lire évidemment. Je trouve que c'est formidable, c'est un récit formidable, que ça doit être terrible d'être seule en scène, sans chanter cette fois, mais et en faisant du théâtre, et de jouer plusieurs rôles. Car dans ce monologue, il y a Blanca Metzner enfant, Blanca Metzner jeune fille, arrêtée et envoyée dans un camp, Blanca Metzner plus âgée et Blanca Metzner très âgée en Israël. Donc je joue plusieurs personnages, je joue également quelques Allemands. Tout ça, je dois le faire. J'ai fait un peu de théâtre. Mais je ne sais pas si je suis capable de le faire. Ce jeune metteur en scène, donc j'accepte quand même, parce que c'est quand même intéressant de le faire. Et je travaille avec ce jeune metteur en scène qui s'appelle Zohar Wexler. Il est comédien, il est metteur en scène, et il me fait travailler. Et il me fait travailler énormément. Il y a un travail de mémorisation hein, très important, de changement de personnalité. Et c'est un travail qui m'intéresse énormément.
Alors vos publics? Parce que finalement, on dit toujours un public, mais c'est pas vrai, il n'y a pas un public, il y a des publics.
Il y a des publics, bien sûr. Difficile d'ailleurs.
Avec le yiddish, c'est où c'était, parce que il y a un public qui est en train de disparaître.
Oui.
Mais c'est quoi donc les publics d'une chanteuse qui a choisi de chanter en yiddish?
Il y a un noyau, il y a effectivement cette génération qui disparaît, devant laquelle j'ai souvent chanté, dans des petits lieux, dans des centres, au cercle Bernard Lazare.
Et qui n'était pas nécessairement bienveillante.
Pas nécessairement, comme vous le dites si bien. C'est un public très dur. C'est-à-dire que même si vous chantez en yiddish, même si vous avez fait des progrès, même si vous essayez de le faire le mieux possible, ça n'est jamais, jamais comme il faut le faire. Parce que ça n'est pas comme ça qu'on le faisait, ça n'est pas dans ces arrangements-là, ce n'est pas habillé comme ça, c'est pas coiffé comme ça. Il y a des tas de choses qui entrent en jeu, et effectivement, une façon toujours extrêmement critique. Et c'est pourquoi quand on tombe sur des gens qui sont contents et bienveillants, on le remarque.
Et puis aussi, c'est un public qui aime qu'on chante ce qu'il connaît déjà.
Mais
c'est
oui.
Un peu comme les enfants à qui on peut lire 50 fois le même livre. Par exemple, Yiddish Mamet.
Oui, Yiddish Mamet, bien sûr, qui provoque toujours le même torrent de larmes, et d'autres chansons, et puis surtout arrangées de façon
certainement
classique.
Certainement pas les arrangements de Teddy Lasry.
Pas tout à fait les arrangements. La guitare électrique, par exemple, et les percussions, c'est un tout petit peu compliqué pour eux. Mais certains ont l'esprit large et tolérant, et surtout, ils ont le sens de la musique, ils peuvent apprécier aussi. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est évidemment me produire devant des publics qui ne s'attendent pas du tout à ce que je vais faire. Et alors là, c'est une joie immense de discuter avec eux, de répondre à leurs questions après le spectacle, de voir qu'ils ont été saisis, et de voir aussi... Et ça, c'est surtout après les textes, quand je dis les textes, de voir aussi qu'il y a une universalité dans ce que je raconte et que beaucoup se retrouvent, même si les dimanches n'étaient pas les mêmes, si la culture n'était pas la même, les salles à manger étaient les mêmes, les décors étaient les mêmes, les mères, la mienne que je décris est souvent la même. Les personnages peuvent ressembler aussi à d'autres personnages qu'ils ont connus.
Puis il y a aussi une universalité de la voix et de la musique.
Bien sûr.
On écoute des chanteurs ou des chanteuses qui parlent dans des langues qu'on ne connaît pas nécessairement.
Ah, ça c'est un argument que je que je produis systématiquement quand certains me disent.
Est-ce que vous avez le souvenir d'un spectacle particulier devant un public qui n'avait aucun lien avec votre milieu d'origine?
Oui, j'ai un souvenir particulier qui est un spectacle qu'on a fait. Teddy au piano, Marc Pujol aux percussions à Cherbourg. Au théâtre, il y a un théâtre magnifique à Cherbourg. Avant de faire ce spectacle dans le théâtre, dans le foyer du théâtre, parce que quand même la directrice ne sait pas très bien si en me programmant il va y avoir du public, donc on va faire ça dans le foyer de façon plus modeste que dans une salle. Mais je voudrais dire aussi que avant de me produire là dans le foyer, nous sommes produits aussi dans la prison qui est proche du théâtre. Et ça aussi, c'est des expériences qui m'ont marquée. Ça, je l'ai fait à Cherbourg, je l'ai fait aussi à Caen, dans une prison. Là, c'était des hommes, mais je l'ai fait dans une prison de femmes à Caen. Et ça, c'est quelque chose qui marque à vie. Déjà, quand on pénètre dans la prison, que les portes se referment derrière vous et qu'on se retrouve, en particulier, devant ces femmes dont on ne sait rien, dont on sait un tout petit peu que certaines ont fait des choses terribles et effrayante, et qu'on se retrouve devant cette humanité, c'est extraordinaire. Et en plus, qu'on leur chante en yiddish, une langue dont elles ne savent même pas ce que c'est, elles n'ont jamais entendu parler, qu'on leur raconte là un petit peu plus, ça c'est des expériences qui marquent pour la vie entière. À Cherbourg, je me retrouve donc dans ce foyer, où il y a donc des cherbourgeois, ils n'ont jamais, ils ne savent pas, il y a peut-être une famille juive à Cherbourg, qui est un magasin de confection, je ne sais pas. Mais les gens à qui je parle découvrent tout un monde et ne nous laissent pas partir après. Parce qu'on leur dit, vous pouvez nous poser des questions. Ils ne partent pas, donc voilà, on salue, on reste. Et on leur dit, bon ben allez-y, on vous répondra. Donc ils posent des questions et ils se disent très émus par ce spectacle. Ça, ce sont des expériences merveilleuses.
Talila, merci. Et je vais vous emprunter votre conclusion, vous parodiez Verlaine en disant de la musique, yiddish avant toute chose.
Mais oui, merci Anna Djilorka.
Cet air yiddish, si doux, si lancinant, je l'ai joué sur mon violon d'enfant, la mélodie
de cette rencontre d'Annette Wieworka avec Talila.
On a tué devant le sans souci.
À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Élodie Royer, réalisation Anne-Laure Chanel, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.
Ce très vieil air, si doux, si lancinant, je l'ai joué sur mon violon d'enfant. La mélodie qui a fait pleurer mes parents parle d'exil.